Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, nous commémorons cette année le 190e anniversaire du Congrès de Vienne, ou plus exactement, la signature le 9 juin 1815 d'un congrès qui s'était ouvert le 1er novembre 1814. Presque huit mois, au cours desquels les grands d'Europe se retrouvèrent dans la capitale autrichienne. 8 mois de tractations, de négociations pour les rois, les princes, les ministres, les diplomates, qui surent également profiter des galas, des fêtes et des bals restés célèbre dans nos mémoires. Un congrès marqué aussi par la tentative d'un retour politique et militaire de Napoléon au début du mois de mars, 100 jours qui se terminèrent dans la mort de plaine de Waterloo. Le congrès de Vienne décida du sort de l'Europe. Pour certains, il permit d'éviter de nouveaux affrontements généralisés, alors que pour d'autres, au contraire, il porte en germe les conflits du 19e siècle et, par voie de conséquence, la Grande Guerre de 1914. Quoi qu'il en soit, il est assez difficile de nier le rôle primordial d'un de ces acteurs, originaire d'une nation pourtant vaincue. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Talleyrand. Quel rôle le joua exactement celui qu'on appela le diable boiteux? Fut-il l'intrigant dont on a souvent et peut-être trop parlé, ou bien simplement un ministre au service des intérêts de la France? Eh bien, en tous les cas, il s'agit d'un personnage complexe, un personnage qu'Emmanuel de Varesquiel, son biographe, nous propose de présenter aujourd'hui au micro d'Un jour dans l'histoire. Emmanuel de Varesquiel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, chercheur à l'École pratique des hautes études, et vous êtes l'auteur, comme je viens de le dire, d'une biographie, très complète consacrée à Talleyrand, une biographie parue aux éditions Fayard il y a de cela un an et demi. Alors peut-être, Emmanuel de Varesquiel, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de dire quelques mots sur le parcours d'un des hommes les plus ambigus et, ma foi, un des plus intéressants de notre histoire. Quand commence réellement la carrière politique de Talleyrand?
Très tôt. En tout cas, bien avant 1789. Il est né en 1754, c'est-à-dire en plein règne de Louis XV, et il meurt en 1838, qui est l'année de l'avènement de la reine Victoria. On a eu tendance pendant très longtemps à le considérer comme un homme du 19e siècle. Et d'ailleurs, il a été vu, critiqué et appréhendé par une génération qui n'était pas la sienne, qui était une génération issue du romantisme français, la génération de la première moitié du 19e siècle, avec des mémorialistes aussi connus que Chateaubriand, ou à moindre degré Mollet, Barante, Trémusat, Thiers, etc. Il a donc été vu essentiellement comme un homme du 19e siècle, et c'est vrai qu'une grande partie de sa carrière politique se déroule au 19e siècle. Ce que peu de ses biographes et ce que peu de mémorialistes ont compris et réalisé, c'est qu'au fond, cet homme, en 1789, avait 34 ans et que, à la veille, à l'aube de la Révolution, c'était un homme formé, éduqué, formé et façonné par l'Ancien Régime. Il a eu une expérience politique extrêmement importante bien avant la Révolution française, à laquelle il a participé ô combien et au premier plan, à la fois comme, financier et comme diplomate. On sait peu qu'il a été, comme ecclésiastique, agent général du clergé. Qu'est-ce que c'est qu'un agent général du clergé? Le clergé, d'abord, qu'est-ce que c'est sous l'Ancien Régime? C'est le premier ordre du royaume et c'est le premier propriétaire foncier de France. Le clergé possède entre un cinquième et un quart du foncier du royaume de France. Donc c'est un ordre extrêmement riche, qui a donc des assemblées générales qui se réunissent tous les 5 ans, exceptionnelles tous les 2 ans, et qui délègue ses pouvoirs en matière, juridique et financier à un agent général, qui est une sorte de ministre du contentieux et de ministre des finances de l'ordre du clergé. Or, Talleyrand, jeune abbé de Périgord qu'il était, a été élu sous l'influence de son oncle qui était l'archevêque de Reims, futur cardinal de Périgord, a été élu agent général du clergé. Donc il a eu une expérience politique extrêmement forte, extrêmement dense, pendant 5 ans, de 1780 à 1785, qui lui a donné la possibilité d'avoir des relations de politique et d'affaires avec tous les ministres du gouvernement de Louis XVI, à cette époque-là, et avec tout ce qui comptait en France et à l'étranger d'hommes politiques. Donc ça, c'est un élément important, parce que c'est un élément qui nous permet d'appréhender l'homme comme quelqu'un qui est formé au début de la Révolution française. Alors que, encore une fois, la plupart de ses biographes le font naître à la politique en 1789. Ses idées, sa conception du monde, sa conception des relations de la France avec l'Europe et avec les États-Unis se sont cristallisées en 1789. Et dans un certain sens, au-delà des méandres politiques qui ont été le sien, vous savez, 9 régimes et 13 serments, du règne de Louis XVI au règne de Louis-Philippe, cet homme, encore une fois formé sous l'Ancien Régime, est resté paradoxalement et d'une certaine manière fidèle aux idées qui ont été les siennes et qui étaient les siennes en 1789. Tant sur le plan de l'organisation de l'État et de la façon dont devait fonctionner l'État, que sur le plan, encore une fois, des rapports de la France et de l'extérieur.
Alors nous allons revenir, Emmanuel de Varesquiel, sur justement ces idées politiques dans la deuxième partie de notre émission. Quand est-ce que commence véritablement sa carrière diplomatique ? Est-ce que, d'abord, les relations internationales l'intéressent dès le commencement de la Révolution française ?
Oui, bien avant, parce qu'il est dans l'ombre de Calonne, qui est le dernier principal ministre de Louis XVI, et qui va en particulier traiter la question du organiser la question du traité de commerce franco-anglais de 1786. Et Talleyrand va participer à ce montage du traité de libre-échange. Ça a toujours été l'une de ses idées maîtresses entre la France et l'Angleterre en 86. Donc il a affaire à des questions de relations extérieures, relations internationales, bien avant 89. Et puis l'une de ses premières grandes missions diplomatiques va avoir lieu en 92, 91 et 92, et va le conduire à 2 reprises à Londres pour obtenir la neutralité de l'Angleterre par rapport à des évolutions française de plus en plus belliqueuse, de la monarchie constitutionnelle de Louis XVI à la République de 92. Mais ce qui est intéressant dans cette première expérience et dans cette première mission londonienne de Talleyrand en 92, c'est que, comme souvent dans ses expériences diplomatiques, c'est une négociation à tiroir. Sous une négociation de façade qui est celle qui consiste à obtenir la neutralité anglaise, c'est-à-dire le fait que les Anglais ne rentrent pas en guerre contre la France alors que la France, devenue république, est en train de déclarer la guerre au roi de Hongrie, comme vous le savez en 92, c'est la levée en masse et ce sont les soldats de l'an 2 bientôt. Derrière cette négociation officielle, il y a une autre négociation qui est à peine connue d'ailleurs du gouvernement français lui-même, mais qui est une négociation menée personnellement par Talleyrand et qui correspond là profondément à ses convictions, qui est de tenter à nouveau un traité d'alliance économique entre l'Angleterre et la France, en obtenant de l'Angleterre un prêt substantiel pour le compte du gouvernement français, en échange de la cession d'une île appartenant aux colonies françaises, qui est une petite île peu connue, mais qui était extrêmement riche parce que c'était une île sucrière qui fait partie des Antilles et qui s'appelle Tobago. Et cette négociation secrète, sous-jacente à la négociation officielle, que mes prédécesseurs n'avaient pas ou peu vue, est extrêmement intéressant si l'on veut comprendre la façon dont les choses se passent, à la fois dans la psychologie du personnage et dans la réalité d'une négociation diplomatique. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a le miroir et il y a ce qu'il y a derrière le miroir. Et la partie commerciale, en réalité, de cette première mission diplomatique de Talleyrand, c'est la face cachée du miroir.
Il y a un attachement à l'Angleterre ?
Alors, je ne prononcerai pas le mot attachement. Talleyrand a toujours considéré que le système politique anglais était le système le plus perfectionné au monde. Et il dit, par exemple, à Napoléon, alors que Napoléon refuse une énième fois la paix anglaise en 1806 au moment des négociations avec Fox après Austerlitz, il dit « si Napoléon détruit l'Angleterre, il détruira la civilisation de l'Europe ». Il dit ça. Il a toujours été, dans un certain sens, profondément anglophile. ses meilleurs amis sont anglais, font partie de l'aristocratie Whig, c'est-à-dire libérale anglaise, des gens comme Lansdowne, qui étaient de très grands francophiles. Mais en même temps, il y a toujours eu, de la part de Talleyrand, une profonde méfiance et un profond sentiment de concurrence de la France par rapport à l'Angleterre. Toute la vie de Talleyrand est une tentative de remettre la France à niveau par rapport au niveau politique, économique et diplomatique anglais, tel qu'il a été acquis au début de la Révolution. Toute la vie de Talleyrand est au fond une sorte de guerre larvée avec l'Angleterre. Quand il arrive à Londres en 1830 comme ambassadeur de Louis-Philippe, il dit « j'arrive dans une ville habitée par 8 millions d'égoïstes ». Il n'était pas dupe de la psychologie anglaise et de la façon qu'avaient les Anglais de traiter diplomatiquement. Il n'était pas dupe de cet égoïsme anglais et il en a toujours tenu compte dans les relations qu'il a entretenues avec les Anglais. Donc il y a ce double aspect, à la fois une profonde, je dirais, admiration pour la perfection du système politique anglais et en même temps une profonde conscience du fait que l'anglais était non pas l'adversaire à abattre, parce que on se souvient de cette phrase qu'il dit à Lamartine à Londres, l'alliance franco-anglaise sera la tige de la balance du monde, mais une profonde conscience du fait que la France avait un rattrapage à opérer par rapport à l'Angleterre et que ce rattrapage, évidemment, ne serait pas fait de bons sentiments français à l'égard des Anglais.
Quelles sont les qualités qu'il met en œuvre est-ce que d'abord il a les qualités d'un bon diplomate? Quelques traits de caractère, disons.
Il a érigé. Vous savez, c'est un homme qui est profondément qui s'est profondément recomposé lui-même. Sainte-Beuve a une phrase très juste à son égard. Il lui consacre un lundi et il dit c'est l'homme de la composition d'une vie. Et Talleyrand a passé son temps à se recomposer par rapport aux événements et par rapport à lui-même. Au fond, pour mieux se dissimuler et se cacher derrière un masque. La grande affaire chez Talleyrand, c'est sauver la face. On ne sauve la face qu'en se cachant. Et dans un certain sens, comme diplomate et comme homme d'État, il a un peu inventé ce paradoxe, qui est le paradoxe de tous les hommes politiques contemporains, c'est que plus on est affronté à l'opinion publique, et plus on est affronté à ce que Auguste de Staël appelle très intelligemment la maison de verre de la démocratie, plus on invente les stratagèmes du secret et de l'opacité. Et ce paradoxe a été, dans un certain sens, créé par Talleyrand. Ce paradoxe de l'homme d'État contemporain, de l'homme d'État en démocratie. C'est Talleyrand qui l'invente. Donc ça, si vous voulez, c'est une façon... ça a conduit chez lui à une organisation psychologique à l'usage des autres qui ne correspondait pas forcément à ce qu'il était profondément. Vous vous rappelez de cette phrase dont on cite, qu'on cite très souvent... deux phrases d'ailleurs, l'une qui concerne Napoléon, quel dommage qu'un aussi grand homme n'ait pas été plus paresseux, et puis l'autre phrase qui tourne autour de la même idée, où il dit à un moment en 1815, moi je ne me suis jamais pressé et pourtant je suis toujours arrivé à temps. Bon, donc Talleyrand érige la paresse et je dirais la désinvolture en méthode absolue de la négociation. En réalité, on n'est jamais aussi fort que lorsqu'on l'on apparaît ou lorsque l'on fait croire que l'on est paresseux vis-à-vis de son adversaire. Et cette paresse est bien entendu un élément de ce masque qu'il a posé sur sa figure. Et derrière la paresse, il y a quelqu'un, l'apparence de la paresse, il y a quelqu'un d'incroyablement tenace, pugnace, teigneux, travailleur, qui travaille quasiment 12 à 13 heures par jour, alors qu'il a toujours fait croire le contraire, et qui se sert de cette paresse comme d'un rideau de fumée pour abuser son adversaire. Donc, une des méthodes, j'en arrive à la question que vous me posez, l'un des aspects de la méthode diplomatique de Talleyrand, c'est l'aspect caméléon. Il y a un autre aspect qui m'intéresse beaucoup et que je trouve extrêmement juste, d'autant plus quand on le compare à certains usages diplomatiques des grandes puissances contemporaines, c'est le fait de dire que pour être un bon négociateur, il faut savoir s'absorber complètement dans le milieu social, intellectuel et psychologique de son adversaire. Par exemple, quand on négocie avec un Anglais, il faut non seulement en connaître la langue, alors que c'était pas si nécessaire que ça à l'époque, puisque la langue diplomatique officielle en Europe était le français. Il faut non seulement savoir l'anglais, mais il faut parfaitement connaître la mentalité et la psychologie anglaise. C'est cet aspect d'immersion totale en territoire ennemi, si j'ose dire, qui, dans l'esprit de Talleyrand, représente quelque chose d'extrêmement important. Donc, il a, dans un certain sens, construit et fabriqué une méthode diplomatique qui a été plus ou moins suivie d'ailleurs au 19e et au 20e siècle, mais que je considère comme une méthode extrêmement intéressante.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy. Je reçois Emmanuel de Varesquiel, auteur de la biographie Talleyrand, et nous évoquons son parcours en matière de relations internationales. Et après une pause, nous verrons sa pensée en matière de relations internationales. À tout de suite.
Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Emmanuel de Varesquiel, auteur du livre de la biographie de Talleyrand, Le Prince Immobile, paru chez Fayard. Alors, nous avons évoqué un peu son parcours avant la Révolution, qui est important, pendant la Révolution. Pour Talleyrand, la politique intérieure est une chose importante. Et avant, j'allais dire, c'est ce qui ressort de votre livre, avant de s'occuper de politique internationale, il tient à ce qu'il y ait en France un État solide. Est-ce que ce n'est pas à cause de cette idée qu'au fond, on le voit tout le temps, soutenir d'abord la Révolution, puis ensuite Napoléon, et puis enfin Louis XVIII ?
Oui. Il faut un préalable je donnerai un préalable comme réponse à votre question. C'est que, paradoxalement, une fois de plus, c'est par rapport à la génération du 19e siècle, Talleyrand n'est pas l'homme de la nation, c'est l'homme de l'État. Il n'a jamais tenu un discours nation, un discours national. Il a toujours considéré que la nation était, je dirais, l'un des nombreux succédanés dans l'ordre de l'imaginaire et du discours de propagande, d'une réalité qu'il considère cette fois comme extrêmement concrète et qu'il appelle l'État. Qu'est-ce que c'est que l'État ? C'est un ensemble de rouages administratifs, économiques et politiques qui constitue un pays. Talleyrand a été l'homme de l'État et la conception de l'État qu'il a eue est une conception au fond auquel, encore une fois, il est resté profondément fidèle et qui est à peu près en ordre dans son esprit dès 1789. C'est non pas une conception absolutiste de l'État, mais une conception, je dirais, à la fois libérale et constitutionnelle. Il considère que dans les mécanismes organisationnels de l'État, un exécutif fort doit être non pas appuyé, mais censuré par ce qu'il appelle une représentation, c'est-à-dire, dans son sens, sur un modèle anglo-saxon, on parlait de l'admiration qu'il avait pour le système politique anglais, ce qu'on appelle de façon un peu technique et pompeuse le bicaméralisme, un système à deux chambres, une chambre basse, c'est-à-dire une chambre des députés, si on veut, qui est un petit peu l'élément populaire de la représentation, même si cette chambre, dans son esprit, est conçue évidemment sur un système électif censitaire, c'est-à-dire un système sélectif sur la fortune et sur l'aisance, qui sera un système pratiqué quasiment à quelques exceptions près jusqu'au début de la Troisième République, et d'autre part une chambre haute, qu'on appelait à l'époque, qu'on a appelé sous l'Empire le Sénat conservateur, et puis sous la Restauration la Chambre des Pairs, et qui est une chambre dont les membres sont élus par le pouvoir exécutif, mais avec un élément qui était considéré comme extrêmement important de la part des libéraux à l'époque, c'est l'hérédité. C'est à partir du moment où vous êtes nommé, mais que vous êtes nommé héréditairement dans une chambre dite la chambre des pairs ou le Sénat, vous avez, du fait même de l'hérédité, une liberté de pensée et de parole que vous n'avez pas si vous êtes simplement élu à vie ou vous gardez un espèce de lien extrêmement important avec le pouvoir exécutif qui vous tient dans une certaine mesure. Donc ça a toujours été le fond de la pensée de Talleyrand, c'est-à-dire une monarchie, mais non pas absolutiste, quel que soit le nom qu'on lui donne d'ailleurs, un système avec un exécutif fort et une représentation qui soit susceptible de contrôler l'exécutif. Et cette représentation est également susceptible de porter un certain nombre de valeurs qui ont toujours été celles de Talleyrand, qui sont, je dirais, des valeurs libérales. C'est-à-dire que ce système doit s'accompagner du libre exercice de l'opinion publique, on l'appelait l'opinion publique à l'époque, c'est-à-dire de toutes les libertés. La liberté de penser, la liberté religieuse, la liberté de parole, la liberté de réunion, liberté que Talleyrand a défendue d'un bout à l'autre de sa vie avec une incroyable constance, y compris sous l'Empire. Mmh. Donc voilà un peu, très sèchement résumé, le système politique de Talleyrand.
Mmh. Alors venons-en, on comprend bien que Talleyrand sert un État. Venons-en à sa conception de l'équilibre européen. Et au fond, cette conception de l'équilibre européen, c'est une conception très traditionnelle. Vous disiez au début de notre émission que les biographes ont eu tendance à oublier que c'était un homme du XVIIIe siècle. Et sa conception des relations internationales est une conception des XVIIe et des XVIIIe siècles, non ?
Oui, oui et non, parce que toute la diplomatie du XVIIIe siècle consacre dans un certain sens la force sur le droit. Et il y a, Talleyrand a écrit quelques ouvrages qui sont d'ailleurs peu lus, ce qui fait qu'on a peu compris sa pensée, dont un, en général ce sont d'ailleurs des ouvrages anonymes ou qu'il fait écrire sous la signature de certains de ses collaborateurs. Et il a écrit au tout début du consulat un livre remarquable qui s'appelle « De l'état de la France en l'an 8 » et qui fait une espèce de point sur la situation française par rapport à l'Europe et qui revient en arrière. Et une grande partie du livre porte sur la critique que fait Talleyrand au système européen au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la dégradation des relations diplomatiques de l'Europe à partir de ce qu'on appelait le traité de Westphalie, c'est-à-dire à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle,
1648,
avec des empiètements progressifs d'un certain nombre de puissances, d'un certain nombre d'États sur d'autres, en particulier deux États qu'il critique profondément, qui sont d'une part la Russie, qui a toujours eu jusqu'au partage de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle, tendance à empiéter sur, je dirais, l'indépendance politique des autres pays européens, d'une part, et d'autre part l'Angleterre, qui s'est arrogé une puissance tout à fait déséquilibrée sur mer par rapport aux autres puissances continentales. Donc, Talleyrand constate une dégradation du système diplomatique européen dans le courant du XVIIIe siècle. Et toute la politique de Talleyrand, je dirais, depuis le Directoire, même s'il n'avait pas beaucoup de pouvoir sous le Directoire, jusqu'à la monarchie de Juillet, ça a été de tenter de retrouver des équilibres européens, ces équilibres européens perdus sous l'Ancien Régime. Donc vous voyez que ce n'est pas tant une politique d'Ancien Régime décalquée au XIXe siècle, c'est plutôt un idéal de ce qu'aurait pu être la politique du XVIIIe siècle, telle qu'elle n'a pas été tentée à nouveau au XIXe siècle. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et quelles sont les bases de cette politique ? On rentre un peu là dans des idées abstraites, mais je pense que c'est intéressant puisqu'on a le temps de le faire. Donc profitons-en. La première idée qui est sous-jacente à toutes les autres, c'est de la part de Talleyrand, c'est de considérer que, encore une fois, un État est un ensemble extrêmement complexe et que des relations diplomatiques, ce sont des relations d'État à État. Et ce ne sont pas des relations purement politiques. Ce sont des relations qui reposent sur, je dirais, des éléments qui sont à la fois l'administration des États, le bon état de leur administration, la puissance économique des États, le bon état de leur économie, la puissance des échanges commerciaux des États les uns avec les autres, le bon état de ces échanges, et que tous ces éléments doivent être mis en ligne de compte pour qui veut comprendre les rapports que peuvent entretenir les États les uns avec les autres. Et que donc, évidemment, la diplomatie n'est pas une pure... Et ça, c'était assez neuf de la part de Talon de le dire, je dirais, au début du XIXe siècle. La diplomatie n'est pas une pure affaire, je dirais, politique ou la politique conduite par d'autres moyens, c'est-à-dire de forces armées, mais c'est une affaire beaucoup plus complexe, au fond une affaire de paix, qui où entrent en jeu des éléments, des paramètres, qui ne sont pas forcément uniquement des paramètres politiques. Donc ça, c'est un élément, si vous voulez, qu'il faut avoir en ligne de mire ou en fond de tableau, en permanence, si on veut comprendre quelle est la pensée diplomatique de Talleyrand. Alors, une fois qu'on a posé cette espèce de cadre général, qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne la vision européenne de Talleyrand ? Elle repose, à mon avis, sur deux mots clés. Le premier, c'est le mot équilibre. Et le deuxième, qui explique l'équilibre, parce qu'on peut toujours, un peu comme De Gaulle le disait de l'Europe, on peut crier Europe en sautant sur son siège comme un cabri, mais encore faut-il expliquer ce que c'est que l'équilibre. Dans l'esprit de Talleyrand, l'équilibre, c'est de faire en sorte que les grandes puissances européennes, elles étaient quatre à l'époque, c'était l'Angleterre, la France, elles étaient cinq, quatre, l'Angleterre, la France, la Russie, l'Autriche, et puis une cinquième en ligne de mire, qui avait un bel avenir devant elle, qui était la Prusse. Ces grandes puissances ne soient jamais directement en contact l'une de l'autre. Donc, le mot explicatif du mot équilibre dans l'esprit de Talleyrand, c'est le mot corps intermédiaire. Et toute la politique de Talleyrand, pendant quasiment 60 ans, il a été quasiment 60 ans au pouvoir, c'est de faire en sorte que ces corps intermédiaires existent, ne soient pas laminés par une politique hégémoniste quelconque, qu'elle soit française avec Napoléon, ou russe avec Alexandre Ier, ou anglaise avec Pitt, mais qu'elle admette, selon un vieux principe diplomatique qui est celui du droit des gens, qu'elle admette l'existence de confédérations intermédiaires dont la plus importante à ses yeux est ce qu'on a appelé la Confédération germanique ou la Confédération du Rhin, qu'il a toujours défendue, y compris à Vienne, on en parlera tout à l'heure, pour une raison très simple, pas pour le plaisir de maintenir une confédération germanique quelconque, mais simplement parce que cette confédération était une sorte de puissance et de force tampon, de force neutre, entre deux forces antagonistes et je dirais belliqueuses, qui étaient d'une part l'Autriche et d'autre part la Prusse. Et que ce que Talleyrand a vu en avance, c'est là où il ne décalque pas forcément une politique ancienne, mais qu'il a une vision qui a quasiment un siècle d'avance sur celle de ses contemporains et même de ses successeurs, il a vu à l'avance que le maintien de cette confédération germanique, autour de la Saxe en particulier, préserverait l'Europe d'une guerre européenne. Alors on en parlera plus en détail avec le congrès de Vienne, mais ça, si vous voulez, équilibre par les corps intermédiaires, c'est le fond de la pensée diplomatique de Talleyrand.
Alors justement, venons-en.
C'est évidemment le contraire de ce que nous vivons aujourd'hui, qui est l'unilatéralisme.
Alors venons-en justement à l'année 1814, puisqu'avant 1815, il y a le fameux traité de Paris. Quelle est la nature de ce traité de Paris et quel est le rôle de Talleyrand dans ces négociations ? On lui a beaucoup reproché l'historiographie lui a beaucoup reproché ce traité de Paris.
Alors, ça c'est extrêmement intéressant. L'historiographie française évidemment et normalement fortement appréciée de l'idée imprégnée de l'idée de nation. Et cette idée de nation telle qu'elle a été définie, je dirais dans un certain sens par Napoléon en 1815 dans le discours nation qu'il tient repose sur la question de la revanche. c'est-à-dire la fameuse question des frontières naturelles et le fait que la grande nation, telle qu'on l'appelait sous l'Empire, a été profondément putée et diminuée d'un certain nombre de territoires qui ont été le fruit des conquêtes, de la Révolution et de l'Empire, et que cette situation est absolument insupportable, et que la vocation même de la nation, c'est l'hégémonie, c'est une vocation hégémonique. Ça, c'est le fond tout de même du nationalisme français, de la reconquête ou de l'impossible reconquête des frontières naturelles, au soutien de tous les nationalismes européens, que ce soit la Pologne ou l'Italie, sous la monarchie de Juillet et sous le Second Empire. Ça, c'est le fond, si vous voulez, de l'historiographie française. Par rapport à ça, il est certain que Talleyrand est un peu, et a été pendant très longtemps, considéré comme le canard boiteux de la basse-cour. Pourquoi ? Parce que ce que fait Talleyrand, si on enlève la négociation de 1814 de ce fameux traité de Paris de 1814 de son contexte, la France se retrouve profondément amputée et diminuée de ce qu'elle était sous l'Empire. Bon, ça, c'est, si vous voulez, la situation brute de décoffrage, si j'ose dire, sans essayer de comprendre ce qu'était le contexte. Au fond, quelle est la situation en 1814, en essayant de comprendre le contexte ? C'est que la France est en guerre avec la totalité de l'Europe depuis quasiment 22 ans. Et que la France a mené des guerres d'abord idéologiques, puis de conquêtes extrêmement meurtrières et extrêmement féroces vis-à-vis d'un certain nombre de puissances européennes. Et que, au fond, le sentiment qui dominait en Europe, du côté des alliés, du côté de la coalition, la sixième coalition qui va se lever contre Napoléon à partir de Leipzig et qui va entraîner la chute de l'Empire, le sentiment dominant, c'est la peur. La France a fait peur à la totalité de l'Europe. Cette espèce de, sur le principe de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, cette espèce, au fond, de tentative de profiter de ce principe pour mettre la main sur des territoires et pour pratiquer des politiques dont la liberté n'était tout de même pas, au bout du compte, l'élément dominant, il faut dire ce qui est. Cette politique hégémonique, cette politique du système napoléonien, cette politique de paix imposée avec des occupations militaires prolongées, des indemnités de guerre extrêmement élevées, je pense à la paix avec l'Autriche en 1805 après Austerlitz, ou la paix avec la Prusse en 1807 à Tilsit, était une politique extrêmement coûteuse, a été extrêmement coûteuse pour l'Europe. Et c'était une espèce de fuite en avant qui était considérée par Talleyrand, qui était encore une fois l'homme de la paix, profondément l'homme de la paix, comme une politique invivable à long terme. Donc que dit Talleyrand ? Il dit... Il faut se montrer de bonne foi par rapport aux alliés, et si l'on veut être crédible, il faut revenir à un système qui était celui des commencements de la Révolution française. Et donc il faut accepter un retour de la France aux frontières de 1792. Et c'est précisément ce qu'il va faire. Et dans un certain sens, il va obtenir une paix incroyablement équitable et quasiment miraculeuse, quand on songe tout de même qu'il négocie cette paix alors que l'armée française n'existe plus, elle est partie en fumée, alors qu'on est occupé par 300 à 400 000 militaires alliés sur l'ensemble du territoire français, qu'on est battu, archi-battu, et qu'on a, dans un certain sens, fait peur aux Européens pendant 25 ans. Dans cette situation, qui est une situation absolue du faible au fort, Talleyrand étant dans la position du faible et le fort étant la position des alliés, Talleyrand négocie une paix extraordinaire, c'est-à-dire qu'il obtient pas d'occupation militaire en France, pas d'indemnité de guerre de la part de la France aux alliés, et des frontières qui sont relativement, et voire extrêmement honorables, qui sont les frontières de la France d'Ancien Régime, augmentées des additions, je pense, à une partie de la Savoie, à un certain nombre d'éléments sur la frontière du nord de la France en Belgique, à Montbéliard, à Avignon et au comtat vénessin, qui ont été les additions des premières années de la Révolution française. Donc une paix... qui repose, de la part de Talleyrand, sur une véritable compréhension de la situation.
Vous la qualifiez de plus belle paix du monde, oui. dans votre livre. Du traité de Paris au congrès de Vienne, il n'y a qu'un pas. Pourquoi et comment la France est-elle admise au congrès de Vienne ? C'est ce que nous verrons, Emmanuel de Varesquel, dans un instant.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit Emmanuel de Varesquiel, historien et auteur du livre Talleyrand, le prince immobile, paru chez Fayard il y a de cela un an et demi. Nous évoquons cette personnalité ambiguë, ce personnage ô combien complexe de notre histoire et tout son travail en matière de politique étrangère. Nous avons vu que le traité de Paris, au fond, n'était pas si mauvais que cela et nous en venons au congrès de Vienne, qui est l'objet de notre émission. Pourquoi et comment, au fond, la France arrive-t-elle au congrès de Vienne? Parce que le congrès de Vienne, son objectif est de, j'allais dire, remanier l'Europe après la domination napoléonienne. Et la France, dans tout cela, elle est vaincue. Et on peut se dire, j'allais dire, après ce qui s'est passé, par exemple, en 1918 et 1919 avec l'Allemagne, que la France n'avait pas sa place au congrès de Vienne. Là, elle a sa place. Pourquoi?
Eh bien, d'abord parce que Talleyrand obtient qu'elle ait une place dans cette discussion internationale qui va avoir lieu sur la question, au fond, des dépouilles de l'Empire, c'est-à-dire comment redistribue-t-on les dépouilles du grand empire napoléonien. C'est ça le fond, et comment recrée-t-on une Europe viable? Et dans les clauses secrètes du traité de Paris de 1814 dont on parlait tout à l'heure, et c'est pas la moindre des réussites de Talleyrand, Talleyrand obtient que la France soit présente en tant que telle, à part entière, au congrès de Vienne. Alors le problème, c'est que entre la négociation du traité de Paris et l'ouverture du congrès de Vienne en septembre 1814, il va se passer quelques mois où les alliés vont se dire « Mais finalement, on a tout de même trop concédé aux Français. Après tout, ils sont vaincus, ils vont nous emmerder et on va leur laisser finalement un strapontin. » Ce qui explique l'entrée tonitruante de Talleyrand, qui au fond, mais ça relève plus de la méthode et du style que du fond du personnage, qui arrive à retourner la situation, c'est-à-dire qui est invité
l'un
des
septembre.
Premiers jours où il arrive à Vienne, qui est invité un peu, en paying guest, à la table des négociations, de façon un peu soupçonneuse et sourcilleuse de la part des autres négociateurs autrichiens, anglais, russe et prussien, et qui va finir par expliquer que le traité de Vienne n'aura pas lieu et la négociation n'aura pas lieu si la France n'y participe pas à part entière. Et il a cette phrase absolument merveilleuse à Humboldt, l'un des négociateurs prussiens, qui lui dit, alors que Talleyrand invoque ce qui lui tiendra toujours à cœur à Vienne, c'est la question du droit des gens, c'est-à-dire qu'au fond, à partir du moment où on sort d'une période de conquête personnelle et d'hégémonie personnelle qui était celle de Napoléon, autant cesser cette méthode diplomatique-là pour en revenir au respect du droit des gens. Et posant cette question-là, Humboldt lui dit « Mais que fait ici le droit des gens ?» Et Talleyrand lui répond « Il fait que vous y êtes ». Et je vous cite cette phrase et cette réponse à l'emporte-pièce qui fait partie de l'esprit du style du personnage pour vous dire que avec deux ou trois phrases de cet ordre-là, mais aussi une extrême intelligence et une extrême pugnacité dans la négociation, en un mois, Talleyrand arrive à faire en sorte que la France qu'il représente soit, considérée comme un élément à part entière de la négociation à Vienne.
Alors, à Vienne...
Ça, c'est le premier élément.
À Vienne se pose une question très importante, deux questions au fond très importantes, c'est le sort de la Pologne et la question de la Saxe.
Oui. Alors, avant de rentrer dans les détails, j'aurais quand même montré, il faut qu'on essaye de dire tout de même aux auditeurs ce que c'est que Vienne. Parce que Vienne, ce sont deux choses qui sont parfaitement paradoxales, ou antinomiques, si vous préférez. D'une part, dans un certain sens, c'est le retour à l'ancien ordre, c'est le retour à l'ancien régime, c'est-à-dire c'est la primauté des légitimités dynastiques sur les légitimités nationales, c'est un retour à une vieille Europe des monarchies, qui est évidemment l'Europe combattue par la levée en masse et par le patriotisme français à partir de 1792. c'est vrai et c'est faux en même temps. Et puis d'autre part, à côté de ça, Vienne, c'est un formidable pas en avant sur le plan diplomatique. C'est que c'est la première fois qu'on a un grand congrès international, puisque ça comportait quasiment tous les États présents dans le monde, qui essayent de résoudre une question internationale à plusieurs, avec un leitmotiv et un mot d'ordre qui est de se dire qu'on se réunira régulièrement tous les deux ou trois ans pour se concerter, se parler et régler et traiter les problèmes sous-jacents du moment. Ce qui était quand même quelque chose d'extrêmement, c'est-à-dire l'invention, je dirais, d'un congrès international régulier au tout début du 19e siècle est quelque chose d'extrêmement moderne et presque révolutionnaire par rapport à la pratique diplomatique telle qu'elle existait sous l'Ancien Régime. C'est quelque chose d'extrêmement neuf. Donc Vienne, c'est à la fois de l'ancien et du neuf. C'est pas incompatible, mais c'est les deux à la fois. Donc ça, il faut bien restituer ce cadre-là pour essayer de comprendre comment les choses se sont passées. Bon, alors maintenant, on peut en arriver aux questions...
Négociations sur la Pologne et la Saxe. Pourquoi la Pologne d'abord et la Saxe pour nos
auditeurs. La Pologne et pourquoi la Saxe? Alors la Pologne, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, la Pologne a toujours été un objectif russe. C'est-à-dire que la Russie, depuis les trois partages de la Pologne à la fin du XVIIIe, a toujours essayé de mettre la main sur la Pologne. Et cette idée de main mise sur la Pologne est une idée fixe d'Alexandre Ier, qui évidemment contrevient à cette notion du droit des gens, c'est-à-dire que c'est vraiment, je dirais, une politique hégémonique de la Russie sur la Pologne. Ça gêne un certain nombre d'autres participants de la négociation, et ça gêne profondément Talleyrand, qui a toujours traité la Russie d'empire barbare. Il disait cette montagne de neige qu'est la Russie, et qui a toujours essayé de faire en sorte que la Russie soit confinée derrière le Niemen, et que la Pologne, au contraire, qui serait un État à part entière, constitue une sorte de barrière, avec l'Autriche d'ailleurs, de barrière infranchissable entre cette civilisation barbare et instable russe, qui se trouve là à l'extrême est de l'Europe, et le reste de l'Europe civilisée. Donc Talleyrand a défendu à Vienne, je dirais, un État polonais indépendant et autonome par rapport à la Russie. Là où les choses se compliquent, c'est que les Russes sont alliés et s'allient à Vienne avec les Prussiens. Et que les Prussiens, eux, demandent en échange de fermer les yeux sur la mainmise de la Pologne par la Russie, ils demandent en échange de mettre la main sur la Saxe, qui était un de ces petits États, moyens États allemands, intermédiaires entre la Prusse et l'Autriche. Or, c'est là que Talleyrand intervient de façon extrêmement habile en retournant la situation, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il considère, et il le considérait toujours depuis quasiment le début de la Révolution, que la mainmise de la Prusse sur la Saxe, c'est un frottement direct, c'est une coexistence de frontières frontalières entre la Prusse et l'Autriche. Et qu'on a là des risques et des potentialités de conflits extrêmement importants, extrêmement violents, du fait même de cette coexistence frontalière entre les deux grandes puissances du centre de l'Europe. Et il a toujours dit qu'il fallait à tout prix éviter cette coexistence. Et c'est pour cela, pas pour les beaux yeux de la Saxe, il n'en a rien à fiche au fond de la Saxe, c'est pour cela que Talleyrand va défendre l'intégrité, ou au moins une partie de l'intégrité de la Saxe, pour éviter cette coexistence entre une Prusse conquérante et de plus en plus hégémonique et une Autriche qui n'a absolument pas envie de se laisser damer le pion par la Prusse. Et j'ai une phrase dans ma biographie qui, je l'espère, résume un peu la situation. On a toujours cru, parce qu'en échange de cette Saxe, Talleyrand va concéder ou va accepter ou va aller dans le sens de la concession d'une partie de quelques petites principautés rhénanes à la Prusse. La Prusse, compensée d'une Saxe qu'elle n'aura pas finalement, va obtenir, je dirais, 50 km à peu près de coexistence frontalière avec la France sur le Rhin, tout en maintenant, et Talleyrand a bien fait attention de ne pas les concéder à la Prusse, tout en maintenant neutres des places fortes importantes comme Luxembourg ou Mayence. Bon. Toute l'historiographie française a crié sur ce qu'il a considéré comme une faiblesse, voire une bêtise diplomatique de Talleyrand, d'avoir laissé les Prussiens s'installer sur le Rhin, alors qu'on aurait bien mieux fait de leur donner la Saxe, qui était bien loin là-bas et qui n'aurait inquiété personne. Mais ce que personne n'a réalisé, le premier à l'avoir réalisé est Thiers, à la fin du Second Empire, alors que Thiers était un émule de Talleyrand et qu'il avait lui-même critiqué Talleyrand à Vienne, ce que personne n'a réalisé, c'est que Sadowa, la grande victoire prussienne sur la Saxe et l'Autriche en 1866, précède Sedan. Si la Prusse ne s'était pas confortée et n'avait pas mis la main sur le centre de l'Allemagne, elle n'aurait jamais été assez puissante pour attaquer frontalement la France. Et c'est ce que Talleyrand a compris. Il a compris qu'au fond, l'intérêt de la France, c'était d'éviter de faire une Prusse puissante au centre de l'Allemagne. Et que c'est une fois qu'elle le serait, et Talleyrand a tout fait pour qu'elle ne le soit pas, et ça a quand même duré 60 ans, une fois qu'elle le serait, alors la France serait vulnérable. Et c'est ce que Talleyrand a compris, et c'est ce que deux générations de diplomates, y compris la diplomatie malheureusement du Second Empire, n'a absolument pas compris. Et c'est ce qui a fait que la diplomatie du Second Empire n'a pas soutenu l'Autriche au moment des guerres prusso-autrichiennes et de la fameuse défaite autrichienne de Sadowa. Et ne l'ayant pas compris, c'est ce qui explique le conflit franco-allemand de 1870. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre.
Oui, vous dites qu'en fait, il veut éviter en 1815 ce qui va se passer en fait, beaucoup plus tard en 1870 et 1870.
Il évite en 1815 ce qui va se passer 60 ans après, et en l'évitant, il donne à l'Europe à peu près un demi-siècle de paix relativement solide, quels que soient les surgissements nationaux qui ont eu lieu notamment en 1830 et en 1848, un peu partout du Midi au nord de l'Europe. Il est tout de même, d'une certaine manière, l'un des pères fondateurs de la paix européenne de la très grosse première moitié du XIXe siècle. Et pour cela, on peut tout de même lui rendre un certain hommage au-delà du diable boiteux et au-delà du diable sautillant d'un régime à l'autre.
Nous nous retrouvons pour la dernière partie de notre émission consacrée à Talleyrand. Un jour dans l'histoire reçoit Emmanuel de Varesquiel, auteur du livre « Talleyrand, le prince immobile » paru chez Fayard. Alors nous avons évoqué ça, ce qu'il a fait au congrès de Vienne. Il y a un élément très important, hormis la question polonaise et hormis la question de la Saxe, c'est cette question d'alliance défensive. Il veut se diriger, il se dirige d'ailleurs, et vers l'Angleterre et vers l'Autriche. Là aussi, se diriger vers l'Autriche n'est pas une politique de continuité.
Non, mais c'est une alliance tactique. Il n'y a jamais cru. Il faut faire la part de la propagande des lettres qu'écrit Talleyrand à Louis XVIII en disant « Nous avons brisé la coalition et nous venons de nous allier secrètement d'ailleurs avec l'Angleterre et l'Autriche ». Au fond, cette alliance très très tactique et très ponctuelle de la France avec l'Autriche et l'Angleterre, secrète, ne va durer que quelques semaines. Et elle a dans l'esprit de Talleyrand un but unique, c'est de faire peur à la Russie sur cette fameuse question de l'échange et du troc entre la Saxe et la Pologne. Et faisant peur à la Russie, elle fait reculer Alexandre Ier, tsar de Russie, et elle permet à Talleyrand d'obtenir ce qu'il voulait obtenir, c'est-à-dire l'intégrité de la Saxe. Hein. C'est une alliance purement tactique.
Purement conjoncturelle,
oui.
Donc. Oui.
Talleyrand n'a jamais été le partisan des alliances. Il a toujours, c'est pas un homme d'alliance, je veux dire. Dans un certain sens, la grande politique d'alliance qui apparaît dans la seconde moitié du 19e siècle et qui va conduire tout droit à la Première Guerre mondiale, est une politique tout à fait anti-talrandesque. Talleyrand n'a jamais prôné une alliance. Il a toujours prôné un rapprochement et un rapprochement conjoncturel. Il a toujours considéré que les relations entre les États étaient des relations extrêmement fluctuantes. Il pouvait y avoir, je dirais, des constantes dans ces relations, mais qu'elles dépendait d'un état donné, d'une situation donnée, des états droits les uns par rapport aux autres. En revenant à ce que je vous ai dit, disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'évolution de leurs forces administratives, économiques, commerciales, culturelles et autres. Et donc, quand on fait de Talleyrand l'homme à tout prix de l'alliance franco-anglaise, c'est faux. C'est faux. Talleyrand a toujours prôné un rapprochement et je dirais une mise à niveau de la France avec l'Angleterre, mais pas vraiment une alliance. Il a toujours considéré les alliances éternelles comme des vues de l'esprit. Et il avait raison.
Alors, il y a pendant ce congrès un coup de théâtre, comme vous le qualifiez dans votre livre, c'est Napoléon. Et vous écrivez que ce fut un des moments les plus tragiques de la vie de Talleyrand, puisqu'au fond, sa position n'est pas idéale. Il se retrouve soutenant un roi, Louis XVIII, qui est exilé, qui est à Gand, et Napoléon, lui, récupère le pouvoir. Comment va-t-il réussir à agir par rapport à
ça? Les 100 jours, le retour de Napoléon de l'île d'Elbe et la reconquête du pouvoir par Napoléon, quelles que soient les proclamations libérales faites par Napoléon avec l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire en 1815, sont une catastrophe, pour la France, pas seulement pour Talleyrand, mais pour la France d'une façon générale, parce que cette espèce de tout repose dans les relations internationales sur le crédit et sur la confiance. Et cette espèce de confiance que en partie Talleyrand a réussi à rétablir dans les rapports de la France et de l'Europe est à nouveau détruite. C'est-à-dire qu'on pardonne, à un ennemi, mais on ne pardonne pas à un récidiviste. On ne pardonne pas à quelqu'un qui s'est échappé à deux reprises de prison. Une fois, ça peut encore aller, mais deux fois, on finit par l'enfermer définitivement. Et le retour de Talleyrand avec, de façon plus ou moins passive, on pourrait discuter de ça, un suivisme, en tout cas de la part de l'armée, derrière Napoléon, derrière l'empereur, crée une situation qui n'a pas d'autre exemple dans l'histoire. C'est-à-dire une situation d'une France qui retombe dans les travers tellement craints et tellement redoutés par le reste du monde, c'est-à-dire des travers conquérants. Et Talleyrand finit, alors qu'il représente un État, qu'il représente un souverain, qui est Louis XVIII, finit du jour au lendemain, c'est-à-dire du 12 au 13 mars 1815, par ne plus représenter personne. Il est le diplomate vide d'un État vide et exilé, puisque Louis XVIII se retrouve dans une petite ville de Belgique qui est Gand, pendant que Napoléon réinvestit les Tuileries, qui est le palais national, l'équivalent de l'Élysée aujourd'hui. Donc c'est une catastrophe. Que fait Talleyrand? Il arrive tout de même à faire co-signer avec la France une proclamation alliée qui fait de Napoléon le perturbateur de l'univers et qui déclare une guerre à mort à Napoléon. Il a une phrase d'ailleurs extrêmement cruelle à l'égard de cette proclamation du 13 mars 1815. Il dit « On peut se remarier avec son ennemi, mais on ne se marie plus avec un condamné à mort. » Et la déclaration du 13 mars, c'est une déclaration de mort civile de Napoléon. C'est-à-dire Napoléon est mis au banc de l'humanité. Hein. Mais c'est tout ce que Talleyrand pouvait faire. Au-delà de ça, il est absolument évident que les alliés, étant donné la situation, allaient finir par ne plus faire confiance à Talleyrand lui-même, assimilé comme français au reste, et à la légitimité, c'est-à-dire au Bourbon, à Louis XVIII également. Et ça a créé une situation extrêmement difficile pour la France, a retardé, le redressement politique, économique et commercial de la France pendant au moins 10 ans, cette affaire des 100 jours. C'est-à-dire que ça a entraîné une deuxième occupation militaire infiniment plus sévère, plus grave et plus violente que la première, parce que notamment les Prussiens, mais aussi les Anglais, trouvaient qu'une fois pris, c'était bien, mais deux fois, on n'allait plus s'y faire prendre. Et donc là, la deuxième paix de Paris de 1815, cette paix-là est extrêmement dure, parce que les alliés ne croient plus en la France. La France s'étant retournée une deuxième fois, et là, on a une paix avec indemnité de guerre, occupation du territoire pendant 7 ans, etc., etc. Donc pour Talleyrand, de son point de vue, du point de vue du rétablissement de la confiance entre la France et l'Europe, le retour, le vol de l'aigle, qui par ailleurs correspond, si vous voulez, à un idéal et une vision patriotique et nationale romantique extraordinaire. Enfin, je n'enlève rien au caractère extraordinaire de cette marche de 20 jours de Porto Ferraro à Paris. Mais il n'empêche que sur le plan de la politique pure, de la politique, je dirais, extrêmement pragmatique, qui était celle de Talleyrand, c'est une catastrophe pour la France.
Nous arrivons, Emmanuel de Varesquiel, au terme de notre émission. Est-ce que le Congrès de Vienne représente la fin d'une époque, ou bien au contraire, dans son caractère conservateur, le conservateur d'une paix, d'un équilibre européen, ou au contraire, le Congrès de Vienne ouvre-t-il le siècle des révolutions ?
Eh bien, c'est un peu les deux, mais pas tant le siècle des révolutions. Le Congrès de Vienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, est à la fois une chose très vieille et très neuve. Elle est très neuve dans le sens où, par exemple, dans les articles, un certain nombre d'articles du traité final du Congrès de Vienne, vous avez les premiers éléments de droit de commerce internationaux sur les grands fleuves, sur le Rhin par exemple, sur la liberté de commerce. Il y a eu même des tentatives d'articles de désarmement. Il y a un certain nombre de choses, et puis ce principe de réunion internationale régulière, de congrès diplomatique régulier, encore une fois, est un principe extrêmement neuf. Donc dans ce sens-là, le Congrès de Vienne est une formidable innovation. Et dans l'autre sens, c'est tout de même un retour aux légitimités monarchiques, une non-prise en compte des nationalités, ça c'est absolument évident, et malgré tout, l'ordre européen qui est organisé à Vienne est suffisamment fort pour tenir quasiment jusqu'en 1914. Et la paix telle qu'elle a été aménagée à Vienne est suffisamment solide pour l'un dans l'autre, à l'exception de la guerre de 1870, tenir jusqu'en 1914. Mmh. Mais Vienne, ce n'est pas la diplomatie des alliances. C'est la diplomatie de la réunion internationale. Ce n'est pas la même chose.
Mmh. Eh bien, Emmanuel de Varesquiel, je vous remercie pour cet avis bien nuancé. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien, que vous avez écrit un ouvrage que je conseille vivement, Talleyrand, le prince immobile, paru chez Fayard il y a un an et demi. Merci beaucoup, Emmanuel de Varesquiel.
Merci.
Et à bientôt.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.